Ta'ala lui fasse miséricorde.
Et c'était peut-être ici, donc l'explication que nous allons utiliser, Inch'Allah. Et je demande aux frères d'enregistrer parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'accès au micro. S'il y a des phrases qu'on doit enregistrer. Donc, cette explication qu'on étudie, c'est l'explication de l'éminent savant Abdel Mohsin Mohamed Al-Abbad Al-Badr, Hafidahullah Ta'ala, le muhaddith très connu de Médine. Concernant le livre, les éditions recommandées, moi, celle que j'ai ici, c'est. Donc, il y en a deux en fait, que je recommande, il y en a peut-être d'autres, mais celles que je connais, c'est donc soit au sein de la compilation de ces livres et épîtres en 7 volumes, édition Dar al-Tawhid l'Innashr, c'est celle-ci en fait, et la Risala se trouve volume 5, page 65. Sinon, soit édité par Dar l'Imam Ahmed en Égypte, c'est une petite Risala, donc sur le Salah que vous retrouvez tout seul, par Shir al-Abbad, dans une petite Risala de Dar l'Imam Ahmed, que vous pouvez trouver assez facilement. En général, sur Internet, vous pouvez le trouver aussi, je pense, sur le site de Shir al-Abbad, l'imprimer ou photocopier de livres. Il y a différentes voies. Sinon, ici, dans la compilation, celle que j'ai moi ici, c'est volume 5, page 65. Ça, c'était pour les éditions. Donc, ceci est l'explication de l'épître de Cheikh al-Islam Mohamed al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, car il fasse miséricorde, qui comprend les conditions de la prière, ses piliers et ses obligations. D'accord ? Donc, Cheikh ici, al-Abbad, rahimahullah, nous dit, je dis, cet épître comprend les 9 conditions de la prière. Donc, il nous en donne combien il y en a déjà des conditions. Il y en a déjà 9. Vous prenez le chiffre. 9 conditions de la prière. Ensuite, il y a ces 14 piliers. Al-Arkanul, Al-Arba'ata'achar. Et ces obligations, comme c'est l'âme, qui sont au nombre de 8. Al-Wajibat al-Samaniya. Nous avons 9 piliers, 9 conditions, 14 piliers et 8 obligations. Et on va voir la différence entre conditions, piliers et obligations. Inch'Allah. Lors de la citation de la quatrième condition, là on va avoir un tafsil. Pourquoi ? Parce que c'est l'obligation de la prière qui est la purification. Raf al-Hadath. Donc, Cheikh Mohamed al-Wahhab, quand il a cité Raf al-Hadath, le fait de lever le Hadath, on va voir c'est quoi le hadith, on va le définir ensemble plusieurs fois, Inch'Allah. On va voir qu'il a cité les 10 conditions de la purification. D'accord ? Les 10 conditions de la purification, qui sont donc la quatrième condition des conditions de la prière, qui est la purification. Et donc, il a cité les 10 conditions de la purification. D'accord ? Donc, la quatrième condition de la prière, c'est Raf al-Hadath. Dans Raf al-Hadath, il y a 10 conditions de purification et 6 obligations. Donc le wudu, il a, plus généralement la purification, elle a 10 conditions et 6 obligations des ablutions. Moi je dirais plutôt ici, le bon mot c'est pas le mot obligation pour les 6, c'est furud. Hein? Furud c'est la notion de 1. Hein? Plus qu'un simple wajib, d'accord ? Donc on va voir, de toute façon, on va voir tout ça, Inch'Allah, parce qu'après il dit encore en plus, et son obligation qui est les ablutions, qui est la basmala, le fait de dire bismillah. Donc vous voyez bien déjà qu'entre furud et obligation, et le wajib, il fait bien une différence, le shirk, d'accord ? On va voir tout ça, Inch'Allah. Donc il y a 10 conditions, shurut 10, furud, combien ? 6, wa wajib wahid, wa huwa al-basmala. Hein ? C'est le fait de dire bismillah. Ça, c'est une obligation dans le wudu. D'accord ? Il y a des divergences là-dessus, mais on se focalise sur ce que dit Cheikh Mohamed al-Abbad, hafidahullah ta'ala. Et Cheikh Mohamed al-Wahhab, lorsqu'il parle des piliers de la prière, parce qu'il va parler des piliers de la prière, combien on a dit, il y en a 14, il va en parler, et bien à ce moment-là, il va citer évidemment Surat al-Fatiha, qui est un pilier. Il va citer également aussi d'autres choses, et il va faire la Surat al-Fatiha, l'explication, le tafsir de Surat al-Fatiha. De manière concise, ainsi que les explications, le tafsir de ce que veut dire les paroles d'ouverture de prière, ce qu'on appelle les stiftah. D'accord ? Alpha de l'istiftah. Et aussi le tashahoud, il va nous expliquer aussi, Cheikh Mohamed al-Wahhab, rahmatullah alayh, et donc Cheikh al-Abbad aussi, qu'est-ce que veut dire le tashahoud ? Avant cela, je voudrais en guise d'introduction, avant de commencer le livre, il conviendrait d'expliquer le fiqh. Et quels sont les deux types de fiqh? Le fiqh al-akbar ou le fiqh al-asghar? Le grand fiqh et le petit fiqh. Là, on va sortir du livre, on va aller dans un livre de Cheikh Al-Uthaymeen dans l'usul fiqh, qui est l'usul min al usul, avec son charh qui est charh al-usul min al usul. Je ne donne pas la référence car l'édition que j'ai ici elle n'est pas bonne du tout. C'est Dar al-Basira. Vous regardez de façon dans chaque lettre du fiqh, il nous dit qu'est-ce que le fiqh? Le Cheikh Al-Uthaymeen nous explique c'est que le fiqh dans son livre, charh al-usul min al usul, qui est l'explication d'un de ses propres livres dans l'usul fiqh, il dit le fiqh dans la linguistique. Linguistique. Le fiqh, l'oratan. Qu'est-ce que veut dire le fiqh dans la linguistique? Quel est le sens du mot fiqh? Eh bien, il veut dire la compréhension. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي Surat Taha. D'accord? Et donc, dans ce sens, la traduction approximative de la parole d'Allah, dans la Surat Taha, verset 27-28, aidez-nous un nœud en ma langue, afin qu'ils comprennent mes paroles. Yafqahu qawli, qu'ils comprennent ma parole. Donc on voit que le fiqh ici, il a avec le sens de compréhension. D'accord? Le fiqh est, c'est-à-dire qu'ils comprennent, yafqahu, le fiqh est donc dans la langue arabe, est plus large que le fiqh dans le jargon des ulama, ce qu'on appelle istilah al-ulama. Donc le sens linguistique est plus large que le sens l'istilahi. Le ma'na al-lughawi a'am min al-ma'na al-istilahi. Ça, c'est important de comprendre ça. Le fiqh est dans la langue arabe est plus large que le fiqh dans le jargon des sciences islamiques. Pourquoi? Car dans la langue, le fiqh est appelé compréhension, fahm. Tu dis, en langue arabe on dit Ar-rajulu faqiha qawli. L'homme a compris ma parole. D'accord? Ça on dit ça dans la langue arabe. Hein? Ar-rajulu faqiha qawli. Hein? D'accord? C'est-à-dire que l'homme a compris ma parole. La traduction approximative du sens du parole d'Allah a dit, donc Cheikh Issi continue en disant, il dit mais vous ne comprenez pas leur façon de glorifier, surat al-Isra. D'accord? وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ. Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit ça dans le Coran? Hein? ولكن لا تفقهون تسبيحهم الله عز وجل يديه dans le sens de la parole approximative, la traduction approximative du sens de la parole d'Allah dit mais vous ne comprenez pas leur façon de glorifier dans sourate al-Isra, le voyage nocturne. Quand est-ce que Allah a dit ça? Après qu'Allah nous ait informé que les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire et son tesbih, et qu'il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Après ça, Allah Azza wa Jalla dit mais vous ne comprenez pas leur glorification, leur manière de glorifier, leur façon de glorifier. D'accord? Quel est l'intérêt d'utiliser ce délit? C'est quoi je l'ai dit ici avec ce verset-là ici? C'est dans le sens de compréhension. Mais vous ne comprenez pas leur façon de parler. Donc, Cheikh a ramené un deuxième verset du Coran où le fiqh est arrivé avec le sens de compréhension. D'accord? Donc premier c'était surat Taha, verset 27-28, et deuxième c'est surat Al-Isra, verset 44. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit donc, qui dit dans le verset, « La tafqahoun » veut dire « Vous ne le comprenez pas. Vous ne comprenez pas leur façon de glorifier. » Maintenant, il nous reste, après avoir vu le fiqh dans son sens linguistique, il veut voir le fiqh dans le jargon, dans l'istilah. Qu'est-ce que ça veut dire chez le fuqaha? Qu'est-ce que ça veut dire chez l'ulama? Hein? Ulama ad-din, qu'est-ce que ça veut dire chez eux, al-fiqh? Eh bien, le fiqh, dans le jargon de la science islamique, c'est, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, istilahan, ma'rifatu al-ahkam al-shar'iyyati al-amaliyyati bi-adillatiha al-tafsiliyya. Très simple définition qui dit, c'est quoi le fiqh? Eh bien, c'est la connaissance des jugements, al-ahkam, ce que vous connaissez tous al-ahkam, al-shar'iyya, légiféré, al-amaliyya, on va traduire ça par des actions, hein? Avec leurs preuves détaillées. بِأَدِلَّتِهَا التَّصِلِيَا. Donc c'est la connaissance des jugements légiférés, l'ahkam shara'iyya, ma'arifa de l'ahkam shara'iyya, al-amaliyya. On va voir pourquoi Cheikh a dit l'amaliyya, très précisément ce qu'il dit ici. بِأَدِلَّتِهَا التَّصِلِيَا. C'est ça le fiqh. Et Cheikh rapporte ainsi un point, il dit وَعَدَلْنَا عَدَلْنَا عَمَّا يُعَبِّرُ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ. Cheikh, il a laissé le mot, un mot, dans la définition, il a changé par un autre mot. Amalia, il a utilisé. Alors que beaucoup de ulama de l'usul, ils n'utilisent pas le mot amalia. Ils disent, ma'rifatul ahkami shara'iyya. Quoi? Ils disent, al-far'iyya. Pourquoi il dit que c'est faux de dire ça? Car le Cheikh l'Islam, rahimahullah, le Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il dit que Ankara anna taqsim ahkam l'islam ila asl wa fara'. تنقسم أحكام الإسلام إلى أصل والفرع وقال إن هذا التقسيم بدعة ولا أصل له في كلام الله ولا كلام رسوله قال عليه الصلاة والسلام قال لأن هؤلاء يجعلون الصلاة مثلا من الفروع c'est la précision dans les alphabes si vous voulez et ça c'est très important dans la définition hein? Une définition est très précise d'accord pourquoi il dit chier on a utilisé le mot c'est la connaissance des jugements légiférés dans les actions et pas dans les branches mais parce qu'il y a des actions qui ne sont pas les domaines des branches, mais qui sont des actions. Le Cheikh utilise l'exemple de la salat. Il a dit, « لِأَنَّ هَؤُلَا يَجْعَلُونَ الصَّلَاةَ مَثَلًا مِنَ الْفُرُوعِ » Ils disent que la salat fait partie des branches. Si tu dis ça comme ça, « مَعْرِفَةَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةَ الْفَرْعِيَّةَ » Or, la salat fait partie des plus grands fondements de la religion. Vous avez compris pourquoi? Il est juste la précision dans la langue, dans l'utilisation des mots. « فَكَيْفَ نَقُولُ أُصُولُ وَفُرُوعِ » من جاء بهذا التقسيم كيف بني بك subdivision كيف بني بك division avant hein ولهذا عدلنا فقلنا عمليه c'est pour ça que Cheikh utilise le mot عمليه ici c'est dans le domaine des définitions d'accord donc ici donc on a dit que Cheikh Hassan Moussaïm a réprouvé cette division qui dit que ça fait partie des bidats etc il nous dit donc comme on a dit qu'il découle de ces fondements et qu'ils disent qu'en fait il y a fondement الأصول وفروع ce qui découle les fondements qu'on appelle les branches en général il a dit que cette division segmentation est une innovation il n'a aucune base ni dans le livre d'Allah ni dans la parole de son messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam car cela range la prière dans les branches alors qu'elle est parmi les plus importants des fondements ça on l'a déjà dit hein. Comment on, donc peut-on dire fondement et branches qui a rapporté cette partition d'accord maintenant après ça on revient dans le livre ici que j'ai dit sur l'Abbad mais pas dans surat salah c'est dans le même volume en fait si vous voulez mais quelques pages avant page 21 et Cheikh ici nous rapporte quoi al-taqsim al-fiqh il dit fiqh ou fiqhan fiqh il est deux catégories ce qu'on appelle fiqh al-akbar ou fiqh al-asghar le grand fiqh al-petit fiqh si vous voulez qu'est-ce que le grand fiqh et qu'est-ce que le petit fiqh alors on revient à la parole de Cheikh Mahdi al-Abbad hafidhahullah page 21 il dit al-fiqh ou fiqhan akbar ou asghar donc le fiqh est de deux types. Je sais que c'est un peu technique, mais le fiqh, c'est comme ça, c'est technique. Hein? Et là, c'est vraiment c'est le premier livre qu'on fait. C'est le plus facile des livres qu'on fait. Inch'Allah, ça vient avec le temps. Il faut juste se concentrer. Et quand on a ce genre de subdivision, fiqh, grand petit fiqh, hadith akbar, hadith asrar, c'est guillé. On a notre purification, notre fiqh, notre din, hein? Avec détail, avec subdivision, avec adila shara'iyya, tout est clair après. Hein? Ça clarifie beaucoup de choses. Il dit. وكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما الينبوعان الصافيان النقيان وهما مصدر كل خير وأساس كل صلاح وفلاح ومنها تستنبط الأحكام في الأصول والفروع في العقائد والعبادات والمعاملات والفقه في الدين فقهان وكذلك نودي الشيخ المحسن العباد حفظه الله نودي كليبغ الله كتاب الله القرآن Et la sunna de son messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont les deux sources claires, pures. Et ce sont les racines de tout bien et de toute vertu et de toute félicité. Ça c'est clair pour tout le monde, je pense. Hein? Et deux sont extraits, ce qu'on appelle istinbat. Hein? Quand on déduit, on extrait les textes des jugements. Hein? Deux sont extraits les jugements dans les fondements et les branches. Dans les fondements et les branches. Au sul wal furu'. Dans les croyances, les adorations et les transactions. Et ça, c'est les trois parties de la religion. Al-aqaïd, al-ibadat, al-mu'amalat, si vous voulez. Souluk, ce qu'on appelle. Al-akhlaq. D'accord ? La base de tout ça, c'est quoi ? Le kitab ou sunna. Et il nous dit aussi que le fiqh est divisé en deux catégories. Ou si vous voulez, deux, il est de deux types. Il y a le grand fiqh. الفقه الأكبر. كيف الفقه الأكبر؟ شكون الفقه الأكبر؟ Et c'était pétrifié, donc l'explication que nous allons étudier, Inch'Allah. Et je demande aux frères d'enregistrer parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'accès au micro. S'il y a des frères qui ont déjà enregistré. Donc, cette explication qu'on étudie, c'est l'explication de l'éminent savant Abdel Mohsin Mohamed Al-Abbad Al-Badr, Hafidahullah Ta'ala, le muhaddith très connu de Médine. Concernant le livre, les éditions recommandées, moi celle que j'ai ici, c'est donc il y en a deux en fait, que je recommande, il y en a peut-être d'autres, mais celle que je connais, c'est donc soit au sein de la compilation de ces livres et épîtres en 7 volumes, édition Dar al-Tawhid l'Innashr, c'est celle-ci en fait, et la Risala se trouve volume 5, page 65. Sinon, soit édité par Dar l'Imam Ahmed en Égypte, c'est une petite Risala, donc sur le Salah que vous retrouvez tout seul, par Shir al-Abbad, dans une petite Risala de Dar l'Imam Ahmed, que vous pouvez trouver assez facilement. En général, sur Internet, vous pouvez le trouver aussi, je pense sur le site de Shir al-Abbad, l'imprimé ou le photocopié de livre. Il y a différentes voies. Sinon, si dans la compilation, celle que j'ai moi ici, c'est volume 5, page 65. Ça, c'était pour les éditions. Donc, ceci est l'explication de l'étude de Shir al-Islam Mohamed al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, car il fasse miséricorde, qui comprend les conditions de la prière, ses piliers et ses obligations. D'accord ? Donc, Cheikh ici, Al-Abbad, Hafidahullah, nous dit, je dis, cet épître comprend les 9 conditions de la prière. Donc, il nous en donne combien il y en a déjà des conditions, il y en a déjà 9. Vous connaissez le chiffre. 9 conditions de la prière. Shurut tis'a. Ensuite, il y a ces 14 piliers. Al-Arkanul, Al-Arba'at Ashar. Et ces obligations.
Comme Shalom, qui sont au nombre de 8. Al-Wajibat al-Samaniya. Nous avons 9 piliers, 9 conditions, 14 piliers et 8 obligations. Et on va voir la différence entre conditions, piliers et obligations. Inch'Allah. Lors de la citation de la quatrième condition, Ash-Shartu Rabi'a, là on va avoir un tafsil. Pourquoi ? Parce que c'est l'obligation de la prière, qui est la purification, Raf al-Hadath. Donc, Cheikh Mohamed al-Wahhab, quand il a cité Raf al-Hadath, le fait de lever le Hadath, et on va voir c'est quoi le Hadath, on va le définir ensemble plusieurs fois, Inch'Allah, on va voir qu'il a cité les 10 conditions de la purification. D'accord ? Les 10 conditions de la purification, qui sont donc la quatrième condition des conditions de la prière, qui est la purification. Et donc, il a cité les 10 conditions de la purification. D'accord ? Donc, le quatrième condition de la prière, c'est Raf al-Hadath. Dans Raf al-Hadath, il y a 10 conditions de purification et 6 obligations. Donc, le wudu, il a, ou plus généralement la purification, elle a 10 conditions et 6 obligations des ablutions. Moi, je dirais plutôt ici. Bon mot, c'est pas le mot obligation pour les 6, c'est furud. Hein? Furud, c'est la notion de 1 plus qu'un simple wajib, d'accord? Donc on va voir, de toute façon, on va voir tout ça, Inch'Allah, parce qu'après il dit encore en plus, et son obligation qui est les ablutions, qui est la basmala, c'est-à-dire bismillah. Donc vous voyez bien déjà qu'entre furud et obligation, et le wajib, il fait bien une différence, le shirk, d'accord? On va voir tout ça, Inch'Allah. Donc il y a 10 conditions, shurud, 6, asara, furud, combien? 6. وواجب واحد وهو البسملة في الفدا دير بسم الله ça c'est une obligation dans le wudu, d'accord. Il y a des divergences là-dessus, mais on se focalise sur ce que dit Cheikh Mohamed al-Abbad hafidhahu Allah ta'ala. Et Cheikh Mohamed al-Wahhab, lorsqu'il parle des piliers de la prière, il va parler des piliers de la prière, combien on a dit, il y en a 14, il va en parler. Et bien à ce moment-là, il va citer évidemment Sourate al-Fatiha, qui est un pilier. Il va citer également aussi d'autres choses, et il va faire la sourate al-Fatiha, l'explication, le tafsir de sourate al-Fatiha, de manière concise, ainsi que les explications, le tafsir de ce que veut dire les paroles d'ouverture de prière, ce qu'on appelle l'istiftah. D'accord ? Al-Fadl istiftah. Et aussi le tashahoud, il va nous expliquer aussi, Cheikh Mohamed al-Wahhab, rahmatullah alayh, et donc Cheikh al-Abbad aussi, qu'est-ce que veut dire le tashahoud. Avant cela, je voudrais, en guise d'introduction, avant de commencer le livre, il conviendrait d'expliquer le fiqh. Et quels sont les deux types de fiqh? Le fiqh al-akbar ou le fiqh al-asghar? Le grand fiqh et le petit fiqh. Là, on va sortir du livre, on va aller dans un livre du Cheikh Al-Uthaymin dans l'usul fiqh, qui est l'usul min 'ilm al-usul, avec son charh qui est charh al-usul min 'ilm al-usul. Je ne donne pas la référence car l'édition que j'ai ici elle n'est pas bonne du tout, c'est Dar al-Basira. Vous regardez de toute façon dans le chapitre du fiqh, il nous dit qu'est-ce que le fiqh? Le Cheikh Al-Uthaymin nous explique c'est que le fiqh dans son livre, charh al-usul min 'ilm al-usul, qui est l'explication d'un de ses propres livres dans l'usul fiqh, il dit le fiqh dans la linguistique. Linguistique. Le fiqh, l'oratan. Qu'est-ce que veut dire le fiqh dans la linguistique? Quel est le sens du mot fiqh? Eh bien, il veut dire la compréhension. Et minhu qawluhu ta'ala, wa hlul 'uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Surat Taha. D'accord? Et donc, dans ce sens, la traduction approximative de la parole d'Allah, dans la surat Taha, verset 27-28, aidez-nous un nœud en ma langue, afin qu'ils comprennent mes paroles. Yafqahu qawli, qu'ils comprennent ma parole. Donc on voit que le fiqh ici, il a avec le sens de compréhension. D'accord? Le fiqh est, c'est-à-dire qu'ils comprennent, yafqahu, le fiqh est donc dans la langue arabe, est plus large que le fiqh dans le jargon des ulama, ce qu'on appelle istilah al-ulama. Donc le sens linguistique est plus large que le sens l'istilahi. Le ma'na al-lughawi a'am min al-ma'na al-istilahi. Ça, c'est important de comprendre ça. Le fiqh dans la langue arabe est plus large que le fiqh dans le jargon des sciences islamiques. Pourquoi? Car dans la langue, le fiqh est appelé compréhension, fahm. Tu dis, en langue arabe on dit, ar-rajulu faqiha qawli. L'homme a compris ma parole. D'accord? Ça on dit ça dans la langue arabe. Hein? Ar-rajulu faqiha qawli. Hein? D'accord? C'est-à-dire que l'homme a compris ma parole. La traduction approximative du sens du parole d'Allah dit, donc Cheikh ici continue en disant, il dit mais vous ne comprenez pas leur façon de glorifier, surat al-Isra. D'accord? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Quand est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit ça dans le Coran? Hein? ولكن لا تفقهون تسبيحهم الله عز وجل يديفو dans le sens de la parole approximative, la traduction approximative du sens de la parole d'Allah dit mais vous ne comprenez pas leur façon de glorifier dans sourate al-Isra, le voyage nocturne. Quand est-ce que Allah a dit ça? Après qu'Allah nous ait informé que les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire et son tesbih, et qu'il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Après ça, Allah Azza wa Jalla dit, mais vous ne comprenez pas leur glorification, leur manière de glorifier, leur façon de glorifier. D'accord? Quel est l'intérêt d'utiliser ce dalil? C'est quoi le wajh l'essai de la laisser avec ce verset-là ici? C'est dans le sens de compréhension. Mais vous ne comprenez pas leur façon de parler. Donc, Cheikh a ramené un deuxième verset du Coran, où le fiqh est arrivé avec le sens de compréhension. D'accord? Donc, premier, c'était surat Taha, verset 27-28. Et deuxième, c'est surat Al-Isra, verset 44. Cheikh Al-Uthaymin nous dit donc, qui dit dans le verset, La tafqahoun, veut dire, vous ne le comprenez pas. Vous ne comprenez pas leur façon de glorifier. Maintenant, il nous reste, après avoir vu le fiqh dans son sens linguistique, il veut voir le fiqh dans le jargon, dans l'istilah. Qu'est-ce que ça veut dire chez le fuqaha? Qu'est-ce que ça veut dire chez l'ulama? Hein? Al-Ma'ad-Din, qu'est-ce que ça veut dire chez eux, Al-Fiqh? Eh bien, Al-Fiqh, dans le jardin de la science islamique, c'est, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, Istilahan, ma'rifatu l'ahkam shar'iyyati, l'amaliyyati, bi'addillatiha, at-tafsiliyya. Très simple définition qui dit, c'est quoi Al-Fiqh? Eh bien, c'est la connaissance des jugements, l'ahkam, ce que vous connaissez tous l'ahkam, la shar'iyya, légiférer, l'amaliyya, on va traduire ça par des actions, hein? Avec leurs preuves détaillées. بِأَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ. Donc c'est la connaissance des jugements légiférés, l'ahkam shara'iyya, ma'arifat l'ahkam shara'iyya, l'amaliyya. On va voir pourquoi Cheikh a dit l'amaliyya, très précis dans ce qu'il dit ici. بِأَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ. C'est ça le fiqh. Et Cheikh rapporte ainsi un point, il dit وَعَدَلْنَا عَمَّا يُعَبِّرُ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ. Cheikh, il a laissé le mot, un mot, dans la définition, il a changé par un autre mot. Amalia, il a utilisé. Alors que beaucoup de ulama de l'usul, ils n'utilisent pas le mot amalia. Ils disent, ma'rifatul ahkam al-shar'iyya. Quoi? Ils disent, al-far'iyya. Pourquoi ils disent que c'est faux de dire ça? Car le Cheikh l'Islam, rahimahullah, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il dit que Ankara anna taqsim ahkam al-islam ila asl wa far'a. أن تنقسم أحكام الإسلام إلى أصل والفرع وقال إن هذا التقسيم بدعة ولا أصل له في كلام الله ولا كلام رسوله قال عليه الصلاة والسلام قال لأن هؤلاء يجعلون الصلاة مثلا من الفروع c'est la précision dans les alphas si vous voulez et ça c'est très important dans la définition une définition de très précise d'accord pourquoi il dit chier on a utilisé le mot c'est la connaissance des jugements légiférés dans les actions et pas dans les branches mais parce qu'il y a des actions qui ne sont pas les domaines des branches, mais qui sont des actions. Le Cheikh utilise l'exemple de la salat. Il a dit, لِأَنَّ هَؤُلَا يَجْعَلُونَ الصَّلَاةَ مَثَلًا مِنَ الْفُرُوعِ Ils disent que la salat fait partie des branches. Si tu dis ça comme ça, مَعْرِفَةَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةَ الْفَرْعِيَّةَ Or la salat fait partie des plus grands fondements de la religion. Vous avez compris pourquoi? Il est juste la précision dans la langue, dans l'utilisation des mots. فَكَيْفَ نَقُولُ أُصُولُ وَفُرُوعِ من جاء بهذا التقسيم كيف نيا بك سبديفيزيون كيف نيا بك سبديفيزيون avant hein ولهذا عدلنا فقلنا عمليه c'est pour ça que Cheikh utilise le mot amaliya ici c'est dans le domaine des définitions d'accord donc ici donc on a dit que Cheikh Ibn Taymiyyah a réprouvé cette division qui était fait partie des bid'a etc il nous dit donc comme on a dit qui découle de ces fondements et qui disent qu'en fait il y a fondement الأصول وفروع كي ديكول لي فونس كون ابل لي برونش ان جينيرال يا ديك سي ديفيزيون سيغمونتاسيون ات ان انوفاسيون ان اوكين باز ان ليفر دو الله ني دو لا بارول دو سو ميساجير الله صلى الله عليه وسلم كار سولا روند لا بريير دون لي برونش alors qu'elle est parmi les plus importants des fondements on a déjà dit comment on donc peut-on dire fondement et branche qui a rapporté cette partition d'accord maintenant après ça on revient dans le livre ici que j'ai de Charles Abbad mais pas dans Sourate Salah. C'est dans le même volume, en fait, si vous voulez, mais quelques pages avant, page 21. Et Cheikh ici nous rapporte quoi ? Al-Taqsim. Al-Fiqh. Il dit Fiqh ou Fiqhan. Fiqh, il est deux catégories. Ce qu'on appelle Fiqh al-Akbar ou Al-Fiqh al-Asghar. Le grand Fiqh, le petit Fiqh, si vous voulez. Qu'est-ce que le grand Fiqh ? Et qu'est-ce que le petit Fiqh ? Alors, on revient à la parole de Cheikh Mahdi al-Abbad, hafidahullah, page 21. Elle dit Al-Fiqh ou Fiqhan, Akbar ou Asghar. Donc, le Fiqh est de deux types. Je sais que c'est un peu technique, mais le fiqh, c'est comme ça, c'est technique. Et là, c'est vraiment c'est le premier livre qu'on fait. C'est le plus facile des livres qu'on fait. Inch'Allah, ça vient avec le temps. Il faut juste se concentrer. Et quand on a ce genre de subdivision, fiqh, grand fiqh, hadith akbar, hadith asrar, c'est guillé. On a notre purification, notre fiqh, notre din, avec détail, avec subdivision, avec adila shar'iyya, tout est clair après. Ça clarifie beaucoup de choses. Il dit وكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما الينبوعان الصافيان النقيان وهما مصدر كل خير وأساس كل صلاح وفلاح ومنها تستنبط الأحكام في الأصول والفروع في العقائد والعبادات والمعاملات والفقه في الدين فقهان وكذا كان يدي الشيخ المحسن العباد حفظه الله يديك الليبغ الله كتاب الله القرآن Et la sunna de son messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont les deux sources claires, pures. Et ce sont les racines de tout bien et de toute vertu et de toute félicité. Ça c'est clair pour tout le monde, je crois. Et deux sont extraits, ce qu'on appelle istinbat. Quand on déduit, on extrait des textes des jugements. Et deux sont extraits les jugements dans les fondements et les branches. Dans les fondements et les branches. Au sul wal furu'. Dans les croyances, les adorations et les transactions. Et ça, c'est les trois parties de la religion. Al-aqaïd, al-ibadat, al-mu'amalat, si vous voulez. Suluk, ce qu'on appelle. Al-akhlaq. D'accord ? La base de tout ça, c'est quoi ? Kitab wa sunna. Et il nous dit aussi que le fiqh est divisé en deux catégories. Ou si vous voulez, il est de deux types. Il y a le grand fiqh. الفقه الأكبر. Qu'est-ce que le fiqh al-akbar? C'est quoi le fiqh al-akbar? Eh bien, c'est ce qui concerne le domaine de la croyance. Cheikh الشيخ نودي ici وهو ما يتعلق بأمور الاعتقاد وهي من أمور الغيب التي لا مجال للرأي فيها وإنما التعويل فيها على استنباط من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Le grand cercle, le premier, c'est quoi? C'est ce qui concerne le domaine de la croyance, du credo, dans laquelle il n'y a aucune place pour la raison. Parce que Rasoul Allah n'a jamais à ça d'ailleurs. Hein? Et on ne se base dans ce domaine sur ce qui est déduit, ce qu'on appelle istinbat, ce qui est extrait du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair, hein? Croyante qui est absolue. Il n'y a pas de place pour la raison là-dedans. Deuxième genre de fiqh, c'est quoi? Deuxième type de fiqh, si vous voulez, c'est le petit fiqh. Le fiqh ou l'asgharou. C'est quoi le fiqh l'asgharou? Ma huwa le fiqh l'asgharou? Ou bien le fiqh l'asgharou, il dit ma yata'allaku bil furu'i min ibadatin wa mu'amalat. Wa ta'wilu fiha aydan على ما جاء في الكتاب والسنة. إدي شيخ المحسن العباد حفظه الله تعالى. إدي c'est celui qui concerne les branches, si vous voulez, ce qui découle des fondements, parmi les adorations et les transactions. Et attention, et on se base pour ce type de fiqh également sur le Coran et la Sunna. Comme on a dit au début, vous vous souvenez? Croyance, ibadat, mu'amalat, tout le kitab wa sunna. D'accord? Et ici, il nous rapporte un point très important qui est à comprendre ici, qui est en général que vous connaissez déjà. فَإِذَا وُجِدَ نَصٌ فِيهِمَا عَلَى مَسْأَلَةٍ مِنَ الْمَسَائِلِ تَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ وَالْأَخْذُ بِهِ وَحَيْثُ لَا يُجَدُ نَصٌ سَاغٍ يعني صاغ الاجتهاد والمجتهد مصيب فيما يسوغ في الاجتهاد مأجور أجرين والمجتهد المخطئ مأجور أجرا واحدا كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est une règle qu'on connaît en général. C'est important de le rappeler. Pour ceux qui ne la connaissent pas, de la rapporter quand même. C'est quoi? C'est que comment se comporte là dans ce cas-là, dans ce cas-là, hein? S'il existe un texte dans le Coran ou la Sunna, qu'est-ce qui incombe, hein, sur un point quelconque? Eh bien, il incombe de revenir à ce texte. Ça, oh là là. Il y a un texte, on revient au texte, c'est tout, khalas. Et de l'utiliser. Et maintenant, s'il n'y a pas de texte, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, uniquement à ce moment-là, l'effort d'interprétation est autorisé. Ce qu'on appelle l'ijtihad. L'effort d'interprétation. Parce que Mujtahid, il fait un effort d'interprétation parce qu'il n'a pas d'exprès sur un mas'ala. Il base évidemment sur sa connaissance du Coran de la Sunna, bien sûr. Hein? D'accord? Et le savant qui fait l'effort d'interprétation, qu'on appelle Mujtahid, hein? Et vous voyez, si on faudrait qu'on fasse un jour un cours sur les conditions pour être Mujtahid. Parce qu'avec les gens, maintenant, n'importe quel Mujtahid. Qardawi est Mujtahid, tout le monde est Mujtahid. Hein? Le savant qui fait l'effort d'interprétation, le Mujtahid, qui trouve le juste avis, dans ce quoi l'effort d'interprétation est permis, ah, c'est une condition importante, s'il trouve le bon avis, yani, s'il a fait l'ijtihad, alors qu'il est permis évidemment de faire l'ijtihad, et qu'il a eu le bon avis, yani, hein, asaba, al-haq, asaba sunnah, c'est juste par rapport au dalil. Et bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il a deux récompenses. Et celui qui est en erreur dans son effort d'interprétation, c'est-à-dire qu'il a fait son effort, il a fait son ijtihad pour arriver à al-haq, mais il n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que al-haq khilaf ce qu'il a dit lui. D'accord? C'est contraire à ce qu'il a dit lui. Et bien à ce moment-là, il est quand même récompensé, mais on l'appelle mokhti. Hein? En état d'erreur. Il a qu'une seule récompense, comme cela rapporté de manière authentique dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il cherche évidemment référence au hadith. Ida hakam al-hakimu, fajtahada fa'asab, falahu azran. Ida hakam al-hakimu, fajtahada fa'akhta'a. Il est évidemment akhta'a alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on n'a pas de problème à dire qu'il a fait une erreur, comme l'a dit Cheikh Al-Bani. On n'a aucun problème complexe à dire ça. Mais lahu azran wahid. Donc, le mujtahid, si vous voulez, musib, le mujtahid, le mukhti. Le premier, il a deux azr, et le deuxième, il a un azr. Pourquoi les ulama ont dit deux azr et un azr, une récompense et deux récompenses? Les ulama ont expliqué ça. Le premier qui est juste, eh bien, il a la récompense pour son effort et la récompense parce qu'il est juste. Le deuxième, il a la récompense pour son effort, mais il n'a pas juste. Je crois que c'est clair, ça. Ça va? Oui.
Mortel
du mochata, erreur. Ça va? Donc, tu as celui qui fait l'erreur, le premier qui a juste, il a deux récompenses. Al-Musib. Ça vient de Asaba al-Haq. Asaba yusibu. Hein? Yusibu al-Haq. Si tu veux, c'est comme quand tu tires une flèche et tu touches une cible. Asaba. On dit Asaba. Hein? Droit dans le mille, si tu veux. Hein? C'est-à-dire qu'il a. Il est arrivé à la cible, il est arrivé à ce qu'il voulait arriver. D'accord? Maintenant, on rentre à proprement dit, c'est en guise vraiment très, traduction très concise, mais je pense que c'est quand même important de faire ce point-là. On pourra en faire des dizaines et des dizaines de cours sur le fiqh et le mujtihad et comment on fait le jihad, comment on fait le jihad, comment l'ami se comporte par le jihad, comment on fait le qawl dans le madhab l'arba'a, et comment est-ce qu'on peut prendre du madhab, est-ce qu'on peut se lier à un madhab, est-ce qu'on lit le madhab, est-ce que, et le hukm taqlid, c'est quoi le taqlid, c'est quoi le tibah. Mais si, comme on a dit dès le début, c'est quoi, c'est de rester concis. Hein, d'apprendre, hein, ce qu'on a besoin d'apprendre, inch'Allah, et avec le temps, on rajoutera des choses. D'accord ? On ne va pas trop s'éparpiller, si vous voulez. Ça a toujours été notre méthodologie, inch'Allah, pour rester focalisé sur ce qu'on fait. Donc, Cheikh Mohamed Al-Abbad Hafidhullah nous dit Alhamdulillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fahada sharhun. برسالة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المشتملة على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. فأقول قد اشتملت هذه الرسالة على شروط الصلاة 9 وأركانها 14 أركانها 14 وواجباتها 8. وعند ذكره رحمه الله تعالى الشرط الرابع من شروط الصلاة وهو رفع الحدث ذكر شروط الصلاة 10 وفروض الوضوء 6 وواجبه الذي هو التسمية مع الذكر مع الذكر ونواقضه 8. وفي كلامه على أركان الصلاة فسر سورة الفاتحة باختصار وشرح ألفاظ الاستفتاح والتشهد. صنع جديد comment on va faire, c'est quoi, c'est que il y a 9 conditions de la prière. Il y a 14 piliers. Il y a, oui, obligation. Et quand est-ce qu'on va rapporter la quatrième condition qui est Raf al-Hadath, eh bien, à ce moment-là, on va faire quoi? On va faire un tafsil. On va rapporter les 10 conditions, si vous voulez, de la purification. Les furud, fara'id, sita, c'est 6 furud. Et son obligation qui est la basmala. D'accord ? Ce qu'on appelle le tasmiya. Et il continue ensuite en disant shurut al-salah, les conditions de la prière. Ici, on va définir le mot sharp. Le mot plutôt shurut. Qu'est-ce que shurut ? Shurut, jam'u shartin. Shurut, jam'u shartin. Qu'est-ce que shurut ? C'est le pluriel du mot sharp en arabe. C'est la condition, si vous voulez. Alors ici, c'est un peu technique, mais il va donner un exemple qui va expliquer. C'est quoi shart? Ash-shart huwa alladhi yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujud. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi al-wujud. Au wujud. Qu'est-ce que ça veut dire? On va comprendre ça de manière très facile. Il dit wal-ma'na annahu yalzamu من كون الإنسان غير متطهر ألا تصح له صلاة لأن شرط الصلاة طهارة لقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. وقد يتوضأ الإنسان ثم يحدث دون أن يصلي صلاة بذلك الوضوء فلا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. très facile à comprendre avec cet exemple-là. Il dit, qu'est-ce que le chart, la condition? Eh bien, c'est ce dont l'absence implique le néant, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, et dont la présence n'implique pas la présence. Qu'est-ce que ça veut dire, ça hein? C'est très simple. Il dit, c'est-à-dire que l'implication du fait qu'un individu ne soit pas purifié. Hein? La purification, c'est une des conditions de la prière ou pas? Non. Que sa prière n'est pas valable. C'est-à-dire que le fait qu'il n'est pas en état de purification, bien, ça implique qu'il n'y a pas de prière, qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que sa prière n'est pas valable. Min adami, hein? Vous comprenez ça ou pas? Hein? Il y a min adami il adam. S'il n'y a pas de purification, il n'y a pas de salah. C'est ça que ça veut dire littéralement. Mais maintenant, s'il y a la purification, est-ce qu'il y a une salah? Pas nécessairement. Vous comprenez? Quand ils sont pressés les ulama. Hein? C'est comme ça qu'ils disent une chose. Yalzamu min adami il adam. Voilà, il y a les amours, mais nous, et on a dans l'exemple. Maintenant, si je fais, comme le cheikh dit ici, il dit, sa prière n'est pas valable car la purification est une condition de la prière. Et la preuve de cela, que sa prière n'est pas valable, c'est la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous s'il commet un hadas, hein, tant qu'il ne fasse pas ses ablutions. Le hadith apporté par le Bukhari Muslim. D'après un hadith de Abu Huraira. C'est un hadith très connu dans le fiqh. La yaqbalu Allahu salata ahadikum ida ahdatha hatta yatawadda. Hadith de Da'amdat al-Ahkam. Il y a beaucoup de hadiths de livres dans le fiqh. C'est un hadith de base dans le fiqh. Que d'après qu'il devrait connaître par cœur. La yaqbalu Allahu salata ahadikum ida ahdatha hatta yatawadda. C'est-à-dire qu'Allah, il n'accepte pas la prière d'entre vous. Hein? S'il fait le hadith, on va voir c'est quoi le hadith. Tant qu'il ne fait pas ses ambitions. Mais c'est quoi le hadith en fait? Eh bien, le hadath, c'est tout ce qui sort des deux orifices. On va le redéfinir encore après. Mais retenez ça déjà maintenant. C'est quoi le hadath? Si quelqu'un vous dit, oui, mais c'est quoi le hadath? Tu dis, raf, le hadath. Tu dis, ida hadath, hatta yatawadda. Explique-nous, c'est quoi le hadath? Eh bien, le hadath, c'est tout simplement ce qui sort des deux orifices. Ma yakhrujou minas sabilein. Minas sabilein. Hein? Et aussi, toute annulation des ambitions. Wa kadhalika kullu naqidin lil wudu. C'est quoi le hadath? C'est tout ce qui sort des deux orifices. Vous savez c'est quoi les deux orifices, d'accord? Hein? Et ce qui est toute annulation des ablutions. On peut encore l'expliquer en disant, eh bien, c'est tout simplement ce qui implique l'obligation de faire les ablutions. C'est-à-dire si un hadith, elle doit prendre l'objet de faire les ablutions. Voilà, c'est ça le hadith. Hein? Vous avez vu la définition du hadith maintenant? C'est clair ou pas? Et cet épître ici, donc l'explication que nous allons étudier, Inch'Allah. Et je demande aux frères d'enregistrer parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'accès au micro. S'il y a des phrases qu'on doit enregistrer. Donc, cette explication qu'on étudie, c'est l'explication de l'éminent savant Abdel Mohsin Mohamed Al-Abbad Al-Badr, Hafidhahullah Ta'ala, le muhaddith très connu de Médine. Concernant le livre, les éditions recommandées, moi celle que j'ai ici, c'est donc il y en a deux en fait, que je recommande, il y en a peut-être d'autres, mais celles que je connais, c'est donc soit au sein de la compilation de ces livres et épîtres en 7 volumes, édition Dar al-Tawhid l'Innashr, c'est celle-ci en fait, et la Risala se trouve volume 5, page 65. Sinon, soit édité par Dar l'Imam Ahmed en Égypte, c'est une petite Risala, donc sur le Salah que vous retrouvez tout seul, par Shur al-Abbad, dans une petite Risala de Dar l'Imam Ahmed. Que vous pouvez trouver assez facilement. En général, sur Internet, vous pouvez le trouver aussi, je pense, sur le site de Charles Abbad, l'imprimer ou le photocopier de livres. Il y a différentes voies. Sinon, ici, dans la compilation, celle que j'ai moi ici, c'est volume 5, page 65. Ça, c'était pour les éditions. Donc, ceci est l'explication de l'épître de Charles Islam Mohamed Al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, car la fasse miséricorde, qui comprend les conditions de la prière, ses piliers et ses obligations. D'accord? Donc, Cheikh ici, Al-Abbad, Hafdahullah, nous dit, je dis, cet épître comprend les 9 conditions de la prière. Donc, nous en donnons combien il y en a déjà des conditions, il y en a déjà 9. Vous prenez le chiffre. 9 conditions de la prière. Shurut tis'a. Ensuite, il y a ces 14 piliers. Al-Arkanul, hein, Al-Arba'ata Achar. Et ces obligations. comme salam, qui sont au nombre de 8. Al-wajibat al-samaniya. Nous avons 9 piliers, 9 conditions, 14. Et cet épître ici, donc l'explication que nous allons étudier, Inch'Allah. Et je demande aux frères d'enregistrer parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'accès au micro. S'il y a des phrases qu'on doit enregistrer. Donc, cette explication qu'on étudie, c'est l'explication de l'éminent savant Abdel Mohsin Mohamed Al-Abbad Al-Badr, Hafidahullah Ta'ala, le muhaddith très connu de Médine. Concernant le livre, les éditions recommandées, moi celle que j'ai ici, c'est donc il y en a deux en fait, que je recommande, il y en a peut-être d'autres, mais celle que je connais, c'est donc soit au sein de la compilation de ces livres et épîtres en 7 volumes, édition Dar al-Tawhid l'Innashr, c'est celle-ci en fait, et la Risala se trouve volume 5, page 65. Sinon, soit édité par Dar l'Imam Ahmed en Égypte, c'est une petite Risala, donc sur le Salah pour trouver tout seul, par sur l'Abbad, dans une petite Risala de Dar l'Imam Ahmed. Que vous pouvez trouver assez facilement. En général, sur Internet, vous pouvez le trouver aussi, je pense, sur le site de Cheikh Al-Abbad, à l'imprimer, au photocopier de livres. Il y a différentes voies. Sinon, ici, dans la compilation, celle que j'ai moi ici, c'est volume 5, page 65. Ça, c'était pour les éditions. Donc, ceci est l'explication de l'épître de Cheikh Al-Islam Mohamed Al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, car il fasse miséricorde, qui comprend les conditions de la prière, ses piliers et ses obligations. D'accord ? Donc, Cheikh ici, Al-Abbad, Hafdahullah, nous dit, je dis, cet épître comprend les 9 conditions de la prière. Donc, il nous en donne combien il y en a déjà des conditions, il y en a déjà 9. Vous prenez le chiffre. 9 conditions de la prière. Shurut tis'a. Ensuite, il y a ces 14 piliers. Al-Arkanul, Al-Arba'ata'achar. Et ces obligations.
Comme salam, qui sont au nombre de 8. Al-Wajibat al-Samaniya. Nous avons 9 piliers, 9 conditions, 14 piliers et 8 obligations. Et on va voir la différence entre conditions, piliers et obligations. Inch'Allah. Lors de la citation de la quatrième condition, Ash-Shartu Rabi'a, là on va avoir un tafsil. Pourquoi ? Parce que c'est l'obligation de la prière, qui est la purification, Raf al-Hadath. Donc, Cheikh Mohamed Al-Wahhab, quand il a cité Raf al-Hadath, le fait de lever le Hadath, on va voir c'est quoi le Hadath, on va le définir ensemble plusieurs fois, Inch'Allah. On va voir qu'il a cité les 10 conditions de la purification. D'accord ? Les 10 conditions de la purification, qui sont donc la quatrième condition des conditions de la prière, qui est la purification. Et donc, il a cité les 10 conditions de la purification. D'accord ? Donc, le quatrième condition de la prière, c'est Raf al-Hadath. Dans Raf al-Hadath, il y a 10 conditions de purification et 6 obligations. Donc, le wudu, il a, plus généralement la purification, elle a 10 conditions et 6 obligations des ablutions. Moi, je dirais plutôt ici. Le bon mot, c'est pas le mot obligation pour les 6, c'est furud. Hein? Furud, c'est la notion de 1 plus qu'un simple wajib, d'accord? Donc, on va voir, de toute façon, on va voir tout ça, Inch'Allah, parce qu'après, il dit encore en plus, et son obligation qui est les ablutions, qui est la basmala, c'est-à-dire bismillah. Donc, vous voyez bien déjà qu'entre furud et obligation, et le wajib, il fait bien une différence, le shirk, d'accord? On va voir tout ça, Inch'Allah. Donc, il y a 10 conditions, shurut, 6, asara, furud, combien? 6. Wajib wahid, wa huwa al-basmala. Hein? C'est le fait de dire bismillah. Ça, c'est une obligation dans le wudu. D'accord? Il y a des divergences là-dessus, mais on se focalise sur ce que dit Cheikh Mohamed Al-Abbad, hafidahullah ta'ala. Et Cheikh Mohamed Al-Wahhab, lorsqu'il parle des piliers de la prière, parce qu'il va parler des piliers de la prière, combien on a dit, il y en a 14. Il va en parler, et bien à ce moment-là, il va citer évidemment Surat al-Fatiha, qui est un pilier. Il va citer également aussi d'autres choses, et il va faire la surat al-Fatiha, l'explication, le tafsir de surat al-Fatiha, de manière concise, ainsi que les explications, le tafsir de ce que veut dire les paroles d'ouverture de prière.
qu'on appelle l'istiftah. D'accord? Alpha de l'istiftah. Et aussi le tashahoud, il va nous expliquer aussi, Cheikh Mohamed Al-Wahhab, rahmatullah alayh, et donc Cheikh Al-Abbad aussi, qu'est-ce que veut dire le tashahoud? Avant cela, je voudrais en guise d'introduction, avant de commencer les livres, il conviendrait d'expliquer le fiqh. Et quels sont les deux types de fiqh, le fiqh al-akbar ou le fiqh al-asghar. Le grand fiqh et le petit fiqh. Là, on va sortir du livre, on va aller dans un livre sur le fiqh, dans le fiqh, qui est l'usul min al usul, avec son charh qui est charh al-usul min al usul. Je ne donne pas la référence car l'édition que j'ai ici elle n'est pas bonne du tout, c'est dans le Basira. Vous regardez de façon dans le chapitre du fiqh, il nous dit qu'est-ce que le fiqh. Le Cheikh Al-Azoum nous explique c'est que le fiqh dans son livre, Charh Usul Min Ilm Al-Usul, qui est l'explication d'un de ses propres livres dans Usul Fiqh, il dit le fiqh dans la linguistique. Le fiqh, l'oratan. Qu'est-ce que veut dire le fiqh dans la linguistique? Quel est le sens du mot fiqh? Eh bien, il veut dire la compréhension. ومنه قوله تعالى وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة طه d'accord et donc dans ce sens la traduction approximative de la parole d'Allah dans la sourate طه verset 27-28 aidez-nous un nœud en ma langue afin qu'il comprenne mes paroles يفقه قولي qu'il comprenne ma parole donc on voit que le fiqh ici il a le sens de compréhension d'accord. Le fiqh est, c'est-à-dire qu'ils comprennent, yafqahu, le fiqh est donc dans la langue arabe, est plus large que le fiqh dans le jargon des ulamas, l'istilah des ulamas. Donc le sens linguistique est plus large que le sens l'istilahi. Le ma'na l'ugawi a'am min le ma'na l'istilahi. Ça c'est important de comprendre ça. Le fiqh est dans la langue arabe, est plus large que le fiqh dans le jargon des sciences islamiques. Pourquoi? Car dans la langue, le fiqh est appelé compréhension, fahm. Tu dis, en langue arabe on dit, Ar-rajulu faqiha qawli. L'homme a compris ma parole. D'accord? Ça, on dit ça dans la langue arabe. Hein? Ar-rajulu faqiha qawli. Hein? D'accord? C'est-à-dire que l'homme a compris ma parole. La traduction approximative du sens du parole d'Allah dit, donc Cheikh Issi continue en disant, il dit, mais vous ne comprenez pas leur façon de glorifier, surat al-Isra. D'accord? وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Quand est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit ça dans le Coran? وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Allah Azza wa Jalla, il dit, dans le sens de la parole approximative, la traduction approximative du sens de la parole d'Allah dit, mais vous ne comprenez pas leur façon de glorifier. Dans surat al-Isra, le voyage nocturne. Quand est-ce que Allah Azza wa Jalla dit ça? Après qu'Allah nous ait informé que les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire et son tesbih. Et qu'il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Après ça, Allah Azza wa Jalla dit mais vous ne comprenez pas leur glorification, leur manière de glorifier, leur façon de glorifier. D'accord? Quel est l'intérêt d'utiliser ce délit? C'est quoi le wajh l'estide, là, ici, avec ce verset-là, ici? C'est dans le sens de compréhension. Mais vous ne comprenez pas leur façon de parler. Donc, Cheikh a ramené un deuxième verset du Coran, où le fiqh est arrivé avec le sens de compréhension. D'accord? Donc, premier, c'était surat Taha, verset 27-28, et deuxième, c'est surat Al-Isra, verset 44. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit donc, qui dit dans le verset, « La tafqahoun » veut dire « Vous ne le comprenez pas. Vous ne comprenez pas leur façon de glorifier. » Maintenant, il nous reste, après avoir vu le fiqh dans son sens linguistique, il veut voir le fiqh dans le jargon, dans l'istilah. Qu'est-ce que ça veut dire chez le fuqaha? Qu'est-ce que ça veut dire chez l'ulama? Hein? L'ulama ad-din, qu'est-ce que ça veut dire chez eux, al-fiqh? Eh bien, le fiqh, dans le jargon de la science islamique, c'est, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. Très simple définition qui dit c'est quoi le fiqh? Eh bien c'est la connaissance des jugements, l'ahkam, ce que vous connaissez tous l'ahkam, la sharia, légiférer, la amalia, on va traduire ça par des actions, hein? Avec leurs preuves détaillées, بأدلتها التفصيلية. Donc c'est la connaissance des jugements légiférés, l'ahkam sharia, معرفة الأحكام الشرعية العملية. Et on va voir pourquoi Cheikh a dit l'amélie est très précisément ce qu'il dit ici. Bi'adillatiha at-tafsiliya. C'est ça le fiqh. Et Cheikh rapporte ainsi un point et dit wa'adalna adalna amma yu'abbiru bihi kathir min al-usuliyin. Cheikh, il a laissé le mot, un mot, dans la définition, il l'a changé par un autre mot. Amaliya, il a utilisé. Alors que beaucoup de ulama de l'usul, ils n'utilisent pas le mot amaliya. Ils disent ma'rifatul ahkam al-shar'iyya. Quoi? Ils disent al-far'iyya. Pourquoi il dit que c'est faux de dire ça? Car le Cheikh l'Islam, rahimahullah, le Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il dit que Ankara anna taqsim ahkam al-islam ila asl wa far'. تنقسم أحكام الإسلام إلى أصل والفرع وقال إن هذا التقسيم بدعة ولا أصل له في كلام الله ولا كلام رسوله قال عليه الصلاة والسلام قال لأن هؤلاء يجعلون الصلاة مثلا من الفروع c'est la précision dans les alphabes si vous voulez et ça c'est très important dans la définition hein? Une définition de très précise d'accord pourquoi il dit qu'on a utilisé le mot c'est la connaissance des jugements légiférés dans les actions et pas dans les branches mais parce qu'il y a des actions qui ne sont pas les domaines des branches, mais qui sont des actions. Le Cheikh utilise l'exemple de la salat. Il a dit, les anna, haoula, yaj'alouna salat, ma salam nel furoua. Ils disent que la salat fait partie des branches. Si tu dis ça comme ça, ma'rifat al-ahkam, al-shar'iyya, al-far'iyya. Or, la salat fait partie des plus grands fondements de la religion. Vous avez compris pourquoi? Il est juste la précision dans la langue, dans l'utilisation des mots. فكيف نقول اصول وفروع من جاء بهذا التقسيم كيف نعمل سبديفيزيون كيف نعمل سبديفيزيون avant hein ولهذا عدلنا فقلنا عمليه c'est pour ça que Cheikh utilise le mot amaliya ici c'est dans le domaine des définitions d'accord donc ici donc on a dit que Cheikh Hassan Moussaïm a réprouvé cette division qui dit que ça fait partie des bid'a etc. Il nous dit donc, comme on a dit, qu'il découle de ces fondements, et qui disent qu'en fait il y a fondement, l'usul, ou furu', ce qui découle des fondements, ce qu'on appelle les branches en général. Il a dit que cette division, segmentation est une innovation. Elle n'a aucune base ni dans le livre d'Allah, ni dans la parole de son messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car cela range la prière dans les branches, alors qu'elle est parmi les plus importants des fondements. Ça, on a déjà dit. Hein. Comment donc peut-on dire fondement et branche qui a rapporté cette partition? D'accord? Maintenant. Après ça, on revient dans le livre ici que j'ai de Charles Abbad, mais pas dans Surat Salah. C'est dans le même volume, en fait, si vous voulez, mais quelques pages avant, page 21. Et Cheikh ici nous rapporte quoi? Al-Taqsim. Al-Fiqh. Il dit Fiqh ou Fiqhan. Fiqh, il est deux catégories. Ce qu'on appelle Fiqh al-Akbar, ou Fiqh al-Asghar. Le grand Fiqh, le petit Fiqh, si vous voulez. Qu'est-ce que le grand Fiqh? Et qu'est-ce que le petit Fiqh? Alors, on revient à la parole de Cheikh Mahdi Abbad, hafidahullah, page 21. Il dit Al-Fiqh ou Fiqhan, Akbar ou Asghar. Donc, le Fiqh est de. Deux types. Je sais que c'est un peu technique, mais le fiqh, c'est comme ça, c'est technique. Hein? Et là, c'est vraiment, c'est le premier livre qu'on fait. C'est le plus facile des livres qu'on fait. Inch'Allah, ça vient avec le temps. Il faut juste se concentrer. Et quand on a ce genre de subdivision, fiqh, grand fiqh, hadith akbar, hadith asrar, c'est guillé. On a notre purification, notre fiqh, notre din, hein? Avec détail, avec subdivision, avec adila shara'iyya, tout est clair après. Hein? Ça clarifie beaucoup de choses. Il dit وكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما الينبوعان الصافيان النقيان وهما مصدر كل خير وأساس كل صلاح وفلاح ومنها تستنبط الأحكام في الأصول والفروع في العقائد والعبادات والمعاملات والفقه في الدين فقهان وكذلك نودي الشيخ المحسن العباد حفظه الله نودي كليبغ الله كتاب الله القرآن Et la sunna de son messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont les deux sources claires, pures. Et ce sont les racines de tout bien et de toute vertu et de toute félicité. Ça c'est clair pour tout le monde. Hein? Et deux sont extraits, ce qu'on appelle istinbat. Hein? Quand on déduit, on extrait les textes des jugements. Hein? Deux sont extraits les jugements dans les fondements et les branches. Dans les fondements et les branches. Au sul wal furu'. Dans les croyances, les adorations et les transactions. Et ça, c'est les trois parties de la religion. Al-aqaïd, al-ibadat, al-mu'amalat, si vous voulez. Souluk, qu'on appelle. Al-akhlaq. D'accord ? La base de tout ça, c'est quoi ?